Tant que ça se lance. Et bienvenue tout le monde, bienvenue dans le live du samedi de Paris Central. Nyx n'est pas avec nous, Nyx est en voyage, vous allez le retrouver très vite, et notamment lundi pour le live débrief du tirage de Ligue des Champions. J'ai avec moi Soura, Tonton, Basto, comment allez-vous messieurs?
Ça va au tranquillement.
Toujours mieux après cette folle soirée de mercredi.
Écoute, bah, on va aborder aujourd'hui, on a plus ou moins quatre dossiers. Le premier, on va parler de la charnière. Les questions qui se posent, notamment Skriniar, est-ce qu'il faut changer? On va parler du neuf, mais sans parler de Kylian pour changer, parce qu'on n'arrête pas de parler de Kylian depuis le début de la saison, et mine de rien, on a mis 170 millions sur le poste de neuf. Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça? Un petit dossier Lucho avec un focus pour Tonton. Et enfin, on va en parler de l'avant-match. Et je vous propose de commencer par la charnière. Soit Skriniar stop ou encore?
Moi, je pense qu'il faut stopper. Je pense qu'il faut vraiment installer la charnière Marquinhos-Lucas Hernandez sur la durée et vraiment essayer de voir comment tu peux jongler en attendant le retour de Nuno Mendes ou d'une recrue avec un Mukiele à gauche ou un Hakimi à gauche. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment arriver à trouver une charnière centrale complète et complémentaire sur la durée que tu peux vraiment compter dessus. Parce que Skriniar, quand on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de pertes de balles, c'est assez friable. Et sur la profondeur, en plus, quand tu as affronté un joueur comme Karim Adeyemi, lui, dès qu'il part, tu peux pas le rattraper et c'est très compliqué d'aller le chercher. Et si jamais tu affrontes un, je sais pas moi, un FC Barcelone ou pire, un Manchester City et que tu as Jérémy Doku qui part dans le dos à Milan Skriniar, bah, je pense que là, c'est terminé, tu pourras pas le rattraper. Et même un Marquinhos qui peut gérer la profondeur ne le verra plus.
Je te laisse enchaîner, vas-y, Tonton.
Moi, en ce qui me concerne, c'est, je pense, c'est une histoire de complémentarité. Le problème, c'est que Skriniar, tu ne peux pas le mettre à côté de Marquinhos parce que bah, Marquinhos, mentalement, il a besoin de quelqu'un de sûr à côté de lui et que Skriniar, techniquement, il a un peu du mal. Moi, j'aimerais bien tester Skriniar en complémentarité avec soit Lucas Hernandez, soit avec Kimpembe, mais je pense qu'avec Marquinhos et Danilo, ça reste une très très mauvaise idée pour le moment.
Basto, toi, est-ce que tu crois? Alors déjà, on remercie Cyprien, nouveau membre. Il y a une nouvelle mode qui s'est lancée. Hein. Tout le monde dit et là. Alors, hésitez pas avec le jeu suisse, ça marche mieux.
C'est un peu non, je pense que c'est des connexions Twitter, ça.
Ah d'accord, ok.
Il y a un X à chaque et là.
Bien vu.
Ah d'accord, ok.
Très bien vu.
D'accord, bah, c'est moi. Oui, il me faut du temps pour capter. Basto, toi la charnière, bah, justement, qui a été suggérée ici, Hernandez, Marquis, t'y crois?
Bah, il faut l'avoir, on l'a vu qu'un match, on en a déjà parlé, on l'a vu que contre, je suis même pas sûr qu'on l'ait vu, si contre Monaco, mais non, c'était même pas ça, c'était Skriniar et Hernandez, mais on n'a pas vu Hernandez, on l'a vu qu'une fois dans l'axe et même pas avec Marquis du coup, donc il faut juste l'avoir. Oui, à terme, je pense, c'est ce que aussi pense le staff, puisqu'on veut recruter un défenseur qui peut aussi jouer à gauche, donc c'est un espèce de remplaçant de Lucas Hernandez tout simplement, donc c'est que le club ne cherche pas un arrière gauche mais un central, donc il faut voir ça. En tout cas, le staff, s'ils veulent ça, c'est que Skriniar ne répond pas aux attentes et on peut le comprendre, même si maintenant enterrer Skriniar définitivement, on va pas le faire passer non plus pour un joueur médiocre alors qu'il a été pendant très longtemps des meilleurs joueurs de Serie A et que tout le monde l'année dernière quand on en parlait le voulait ici au Paris Saint-Germain, donc on va pas l'enterrer non plus, et peut-être dans un autre style de jeu, dans un autre contexte, peut-être en axe droit avec une autre charnière, mais c'est vrai que cette charnière avec Marquinhos, pour un moment, ne marche pas.
Soura, du coup, y a dans les commentaires, on nous parle aussi d'un joueur qu'on n'a pas abordé, c'est Danilo pour toi. Est-ce qu'il a un rôle à jouer dans cette charnière, au-delà de justement trouver peut-être un acquis avec l'axe Hernandez et Marquinhos? Est-ce que Danilo a un rôle à jouer là-dedans?
Bah moi je pense qu'au vu que Milan Skriniar commence petit à petit à un peu perdre des points, si Luis Enrique continue à vouloir mettre en place Lucas Hernandez à gauche, bah je pense qu'il va vouloir installer la charnière Marquinhos Danilo. Donc il faudra voir dans les semaines à venir si Danilo arrive à répondre présent et arrive à reproduire des matchs assez solides comme il l'avait fait face à Monaco. Mais moi j'ai quand même quelques doutes par rapport à Danilo. Mais sinon, c'est un joueur qui arrive quand même à être assez solide défensivement, qui reste un patron, un leader de l'équipe. Donc, pourquoi pas essayer de voir ce que ça peut donner sur la durée. Ouais.
Ben après, si je fais les comptes, on a bon, là, tout le monde a envie de voir clairement la charnière Hernandez-Marquis. Moi, j'ai l'impression que ça peut faire double emploi, mine de rien. Il y a un profil stopper qui pourrait manquer à l'appel. Mais bon, après, à voir. Mais en vous entendant, bah voilà, t'as ces deux-là, t'as Skriniar, Basto le dit, c'est l'enterrer tout de suite, c'est aller un petit peu vite en besogne. T'as Danilo qui est encore là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de recruter dans ce secteur, vraiment au niveau de la charnière? Je te lance, Tonton Mathieu.
Moi, je pense que oui, dans le sens où c'est un sujet qu'on va aborder plus tard, justement. Mais pour moi, à un moment, tu dois recruter des joueurs qui sont compatibles avec le style de Luis Enrique. Et actuellement, en défense centrale, il faut se le dire, Lucas Hernandez et Marquinhos, oui, il n'y a pas de problème. Les deux centraux, ils tiennent la route. Kimpembe peut être essayé, pourquoi pas, mais il est actuellement blessé. On sait qu'il ne reviendra pas avant janvier et il arrive en fin de contrat. Donc, forcément, son utilisation, ça se pose. Mukiele, ouais aussi, je vois dans le chat, c'est vrai que Mukiele peut jouer dans la défense centrale à 4 ou à 3 d'ailleurs, mais ça c'était plus sous Nagelsmann à Leipzig, on ne lui demandait pas forcément les mêmes choses qu'on va demander dans une défense à 4 sous Luis Enrique. Moi, je pense que oui, il faut recruter un défenseur central qui correspond à ce que demande Luis Enrique, dans le sens où pour moi, Kimpembe risque de partir en fin de contrat à la fin de l'année. Et je l'ai déjà dit, pour moi, si Kimpembe quitte le club, tu dois aussi faire partir Marquinhos pour terminer entre guillemets un cycle et tourner une page. Donc pour moi, il y a des joueurs qui sont intéressants. Je pense qu'il y en a un dont on va parler pendant le live. J'y reviendrai plus tard. Mais je pense que ce serait bien, oui, de recruter plus de joueurs qui sont Luis Enrique compatibles entre guillemets.
Justement, pour ce joueur, de toute façon, on en parlera un peu après, mais on va en parler dès maintenant et je vais lancer le basso dessus. C'est Lenny Yoro qu'on va voir justement demain soir, mais on va pas anticiper sur l'avant-match. S'il arrive, compte tenu de l'effectif, tu attends quoi dans Lenny Yoro basso?
On en a déjà parlé 4 ou 5 fois dans nos lives de Yoro. Évidemment que Yoro,
on
c'est.
essaye de faire, on essaye de faire un petit
Oui,
peu
mais.
un
C'est comme
résumé
si c'était la
de la
première fois
problématique charnière. On essaie de
que
faire
les
un
gens ne connaissent
problématique.
pas Yoro. Vas-y,
Mais
Bastorelli, à toi, c'est ton moment.
il commence à le connaître. Il commence à le connaître. Je commence à voir des gens qui disent Yoro, il faut mieux que Todibo. Donc ça veut dire qu'il commence à regarder Yoro. Non, Yoro, mais évidemment, on a un problème en défense, pas forcément en quantité, mais en qualité par rapport, comme l'a dit Tonton, au jeu qu'on veut pouvoir proposer. On a un déficit énorme dans les duels aériens. On est 18e sur 20 en Ligue 1 de ceux qui gagnent le moins de duels aériens défensivement, et on est dans les derniers en Ligue des Champions aussi.
On est le dernier.
On est les derniers. Bon, bah voilà, 18e en Ligue 1. Non, pas 18e, 16e, parce qu'il n'y a plus que 18 clubs en Ligue 1, et dernier en Ligue des Champions. Donc, il y a un manque là-dessus, et il y a un manque aussi de qualité de relance. À partir de là, forcément, tu vas avoir du mal à trouver une défense qui est vraiment ultra compatible et ultra complète, on va dire. Compatible peut-être, complète non. Yoro, ça tombe bien, il y a les qualités et physiques dans les duels aériens défensifs comme offensifs et à la relance. Bon, après, effectivement, il est jeune, mais il y a de l'expérience déjà à ce poste, puisque Marquinhos commence à avoir de la bouteille. Danilo et Skriniar sont trentenaires, enfin, Skriniar aussi, quasiment. Donc, on a 3 joueurs d'expérience qui
Il y a
peuvent
une place.
encadrer Lenny Yoro, et donc c'est très bien, c'est très bien.
Pour toi, il partirait à combien, tonton, Euro?
Là, je vois la somme, 17 millions. Si on arrive à le récupérer aussi peu cher, ce serait incroyable, étant donné la concurrence qu'on a sur le dossier.
Le pied gauche,
Non, mais faut être honnête. Non, mais je pense que tu vois, il a établi une valeur qui peut être plus ou moins correcte pour le joueur, tu vois. Mais dans la réalité des faits, on sait que d'autres clubs sont intéressés, notamment le Real Madrid qui vont faire le nouveau Raphaël Varane. Donc, tu sais qu'à partir du moment où la concurrence arrive et selon qui est ta concurrence et les moyens dont elle dispose, le prix ne sera pas le même. Donc, oui, moi, Lenny Yoro, il m'intéresse. De toute façon, on a fait une petite vidéo dessus avec Basto pour les petits
N'hésitez
curieux.
pas à checker, vous allez dans l'historique Paris Central, vous n'allez pas sur l'onglet direct, mais vous allez sur l'onglet vidéo et ce sera une dernière. N'hésitez pas à regarder si vous voulez vraiment un profil complet sur le joueur. Je te laisse continuer, tonton.
Je pense que tu vois, ce sera difficile d'aller le chercher à Lille cet hiver en sachant qu'on est en cours de saison et que Lille a des objectifs, peut jouer l'Europe cette saison. L'équipe est assez séduisante. Donc je me dis que la meilleure option que tu pourrais faire avec lui éventuellement, c'est d'arriver à le recruter cet hiver, mais de le laisser en prêt jusqu'à la fin de saison à Lille. Comme ça, tu ne le brusques pas. Lui, il garde ses automatismes. Il arrivera cet été. Il fera justement la prépa avec le Paris Saint-Germain et Luis Enrique. Pour moi, c'est la meilleure option que tu peux faire sur ce joueur parce que je pense que tu l'auras pas cet hiver. Et je pense pas que ce sera la meilleure idée non plus de mettre 75 millions pour dépasser le Real et le signer dès cet hiver.
Mais par contre, juste enfin, par rapport au commentaire des 17 millions, même si tu le prêtes, ça sera minimum 50. Hein. Faut pas attendre à moins de 50.
Alors,
C'est un joueur qui est
je
voulu.
m'attendais à Barcola, ouais.
C'est 50 minimum, je pense, pour ce joueur. Mais voilà, enfin, par rapport à ce que tu dis, et je vais te lancer maintenant ce soir, c'est est-ce que pour toi, la charnière, toi, clairement, tu as envie de, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as envie d'avoir un Marquis Hernandez. Tu crois pour la saison, il y a Tonton qui nous parlait de Kimpembe, on a Danilo. Pour toi, même si c'est des joueurs, je doute vraiment de leur compatibilité avec Lucho, est-ce que pour toi, on peut se permettre de peut-être prendre l'euro et de le prêter, en tout cas, pas récupérer une recrue à ce poste cet hiver?
Concernant Yoro, je pense que le PSG, ça fait quelques saisons qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises par rapport aux jeunes. C'est, est-ce que je le fais, je mets une grosse somme et j'ai peur que ça floppe, ou est-ce que je le mets pas et tout le monde vient nous tomber dessus comme Camavinga? Regardez ce qu'il est en train de devenir, bande d'idiots, vous l'avez pas fait. Donc finalement, par rapport à Lenny Yoro, il faudrait le tenter. comme l'a dit Tonton, le laisser 6 mois ou même 18 mois, comme ce qui a été fait pour Ayman Kari au LOSC, et qu'il puisse continuer à progresser. Mais je trouve qu'il va falloir quand même recruter un défenseur central, parce que t'es pas sûr. Lucas Hernandez, t'es pas à l'abri qu'il se blesse. Hein. C'est un joueur qui a connu beaucoup de pépins physiques. Et donc, avec lui aussi, il faut pas espérer qu'il joue 45, 50, 60 matchs à la saison. Kimpembe, pour un joueur qui était aussi explosif et qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille, c'est une blessure où c'est très difficile de revenir à un gros niveau. Donc, à minima, tu dois au moins recruter un défenseur central. Et Araujo, c'est trop cher, faut oublier.
Ah oui.
C'est le vice-capitaine du FC Barcelone quand même.
Non, non, ça va être Marcos Alonso si on prend un mec du Barça. Je pense que ça va être comme ça cet hiver. Hein. Ça va être Yoro qu'on prête 6 mois, plus si on peut faire un défenseur d'expérience,
Marcos
Alonso, et qui lui au moins est bon à la relance et peut correspondre à un profil Enrique, même si c'est évidemment, c'est pas. C'est...
Juste pour un petit point sur Kimpembe, c'est faut presque le voir comme une recrue que tu connais pas encore. C'est incertitude totale sur le niveau actuel du joueur. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'il s'entraîne, parce qu'il était censé être revenu plusieurs semaines qu'il s'entraîne avec le groupe pro, et pourtant il est toujours pas sur le
5
terrain.
5 kilos en trop pour Enrique.
Hein?
Enrique estime qu'il a 5 kilos en trop qu'il doit perdre avant de pouvoir
intégrer. Mais en soi, on n'a aucune idée du niveau dans lequel on va le récupérer. C'est un joueur qui se basait énormément sur son physique pour ses interventions. Et d'une manière générale, même ses relances étaient un peu trop bourrines. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça ne devait pas être facile toujours. Les passes étaient précises, mais elles arrivaient à 150 km/h en fusant sur le sol. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais comme le dit Soura, c'est Hernandez, et puis Hernandez, on peut aussi dire, est-ce qu'Hernandez, c'est un joueur, même si quand il est au prime de sa forme, est-ce qu'il vous sort 60 masterclass dans l'année? Je sais pas, Basto, c'est pas l'impression que tu as, il me semble.
Deux.
Pour Hernandez, être capable d'avoir un niveau haut tout au long de l'année.
Ah, il est quand même dans le dur hein, dernièrement, donc il l'a déjà pas.
Ouais, après, il a l'excuse de pas être à son poste. Après, il a l'excuse de pas être à son poste, mais en central.
Pas son poste, c'est un poste qu'il a joué autant que défenseur central, je pense. Hein. Arrière-gauche entre l'équipe de France, l'Atlético Madrid à ses débuts. Ouah, à mon avis, il est bien à 30-40% de matchs joués à ce poste, hein, Tonton.
Beaucoup au début, énormément au début, parce qu'à l'Atlético, tu sais, Lucas Hernandez,
après, il n'a pas un poste de pur latéral gauche dans une équipe offensive, etc. Donc, il est quelque chose qui est un peu plus hybride, qui peut se rapprocher. Non, il avait très bien débuté à ce poste. Donc, non, peut-être qu'il l'enchaîne aussi, même si Enrique essaye de le reposer en le faisant sortir quand on mène à la 60e, en l'ayant reposé dans certains matchs de Ligue 1. Mais peut-être que physiquement, ça fait très longtemps qu'il n'a pas enchaîné autant de matchs et que ça pioche aussi là-dessus. Déjà, il ne se blesse pas, c'est une bonne chose.
Enfin bon, comme on peut le voir, on n'a pas encore les certitudes clairement sur le poste central. Pour les postes de cet hiver, moi j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément recruter, ou en tout cas recruter quelqu'un qui pourrait être efficace tout de suite, à récupérer tout de suite. Donc bah, on va continuer. Et puis sur l'aspect Lucho compatible, on va y revenir. Mais sur la charnière, ça pose de vraies questions. Maintenant, monsieur, je propose d'attaquer le dossier 9. Et je vais commencer avec Tanguy, Soura. Excuse-moi, c'est juste une petite ref à une blague qu'avait fait Basto. Tanguy Kouassi, look alike.
Oui, il ressemblait un peu.
Voilà, c'était pour le petit tic-tic, on va dire comme ça. Et c'est vrai, le 9, on n'arrête pas de parler de Kylian Mbappé, peut-être en 9, c'est mieux, même si Daniel Riolo pense que c'est une catastrophe. Ici, on n'est pas tout à fait d'accord avec lui sur ce sujet-là. Mais voilà, on a mis 170 millions. Et soit, j'ai envie de te demander, est-ce que Colo a grillé son dernier joker pour Lucho ou pas?
Bah déjà, moi j'ai l'impression qu'il a jamais eu de joker par rapport à Lucho, que ce soit lui ou Ramos, et ça déjà, si c'est le cas, c'est quand même assez compliqué d'avoir mis plus de 160 millions sur deux attaquants qui ne font pas partie des plans d'un entraîneur qui a joué pas mal avec un faux neuf durant avec l'Espagne. Et pour le coup, par rapport à Kolo Muani, je pense qu'il avait déjà grillé sa cartouche pendant un certain moment, et je suis assez déçu que Gonçalo Ramos n'ait pas eu assez de chance pour vraiment prouver sa valeur au sein du Paris Saint-Germain. Donc
on parle de Gonçalo après, vas-y.
Ouais, et je pense que pour moi le match face à Dortmund, il y a quand même eu des bonnes choses dans l'ensemble. Il a des volontés, des capacités. Mais le problème, c'est qu'il fait beaucoup de choses mauvaises, en fait. Contrôle de balle. En fait, il n'est pas en confiance. Il n'est pas du tout en confiance. Il n'est pas dans un système qui lui sied énormément. Parce que, on a souvent parlé de l'Eintracht, mais l'Eintracht, c'était une équipe où il y avait pas mal d'espace, où il pouvait s'exprimer librement. Là, dans un jeu de position, pour un Randal Kolo Muani qui est dans une tactique toute nouvelle pour lui, c'est vraiment très compliqué. Et ouais, je pense qu'il a grillé sa dernière cartouche et que Marco Asensio va reprendre son poste.
Mais ouais, mais après, en même temps, toi, tu dis ça, mais force est de constater qu'on continue avec le triptyque toujours titulaire dans les matchs importants. Est-ce que pour toi, enfin, Lucho, qu'est-ce qui nous permettrait de croire que Lucho va give up tonton, je te lance là-dessus?
Moi, je t'avoue que la gestion elle est un peu étrange, mais en même temps, je me fais un cheminement dans ma tête, dans le sens où Luis Enrique, je pense que s'il avait eu le choix, il n'aurait pris ni Ramos ni Randall. Il aurait pris un autre joueur au poste de 9. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'il a demandé à un joueur qu'il n'a pas réussi à obtenir. Et du coup, il a laissé Campos et Nasser choisir chacun leur pion. Et du coup, bah, aucun des deux ne correspond à ce que veut Luis Enrique. Ni Gonçalo Ramos, ni Randall Kolo Muani n'a joué 9 dans un jeu de position avant d'arriver au PSG. Et qu'au final, bah, Luis Enrique, là, il nous fait un peu le coup de ben. Là, je montre à ma direction qu'elle a complètement tort, et comme je suis quelqu'un de têtu, je vais faire des choix forts pour leur montrer qu'ils ont tort. Quitte à mettre Mbappé en 9, quitte à mettre Asensio en faux 9, quitte à bazarder les deux mecs que t'as achetés au poste de numéro 9, histoire de dire bah ces joueurs ne me conviennent pas. Moi, j'aurais préféré un autre profil, et je pense que. Fallait pas prendre Thuram non plus. Mais moi, je pense que si t'as raté Kane, parce que bon, dans les faits, on va dire que c'est ça, hein, t'as voulu Kane et tu l'as pas eu, et en même temps, je pense que dès le début, tu savais que tu l'aurais pas, bah, je pense qu'il existait une autre option entre. Bah, prendre aucun attaquant et mettre 170 millions sur deux attaquants qui ne correspondent pas à ce que tu avais. Je pense qu'à 170 millions, tu avais peut-être un œuf qui correspondait à ce que recherche Luis Enrique
Mais c'est surtout
dans
pourquoi est-ce
son
qu'il
jeu.
continue de le titulariser dans tous les matchs qui comptent?
Non,
C'est quelque chose
ouais, mais
qui
ça.
s'équipe. Vas-y, vas-y, Vasso.
T'oublies une nuance, c'est qu'il a mis Mbappé en pointe depuis 4 matchs et que là Dembélé était suspendu et Kolo, il l'a mis à droite. Donc on ne sait pas maintenant avec tout le monde devant si c'est plus Mbappé devant Barcola à gauche et Dembélé à droite, ce qui semble être l'attaque que veut mettre Enrique depuis la 60e minute contre Newcastle et qu'il a remis et remis depuis. Donc on ne sait pas sur Kolo. J'ai l'impression en tout cas que. Pour répondre à la question, Colo en neuf, je pense que Enrique va arrêter là-dessus parce qu'il a dans l'idée d'installer
Je te lance
Mbappé.
sur Ramos derrière, hein, Basto, enchaîne avec
Ok.
Ramos.
Parce qu'il a dans l'idée d'installer Mbappé en pointe. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un joueur, c'est un coach comme Guardiola qui a envie de faire le plus de différence en un contre un sur les ailes. Et il y a Dembélé à droite, Barcola à gauche, ça correspond. À partir de là, il n'y a plus qu'une place devant. Bah, Mbappé, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Donc c'est ni Asensio, c'est ni Colo, c'est ni Ramos. Et pour Ramos, bah, le pauvre, le problème, c'est que c'est le seul joueur qui, lui, n'est pas polyvalent. On a un Asensio qui peut jouer sur les deux ailes, qui peut jouer en faux neuf, qui peut même jouer en milieu haut. On a Kolo qui peut jouer sur les deux ailes et en neuf. Et on a Ramos qui ne peut jouer que neuf, donc à la place d'Mbappé. Donc s'il n'y a pas de suspendu ou de blessé et qu'Mbappé n'est pas décalé sur un côté, bah Ramos, et bah, il fait ce qu'il fait depuis quatre
Mais
matchs. Hein.
il était déjà Ken avant qu'on installe Mbappé en 9. Hein.
Bah, il jouait autant que Kolo, c'est juste qu'il ne jouait pas les gros matchs. Mais en Ligue 1, il jouait. Kolo n'a que trois titularisations en Ligue 1, par exemple. Bon, il en a six en Ligue des Champions.
Alors, très rapidement, je reviens sur un message de Lucas. Je suis désolé, pour moi, tu forces. Hein. Hernandez, ça fait un mois. Oui, bien sûr qu'il a, il a des responsabilités, il doit faire des choses. Mais ça fait un mois où il se
En
fait
même temps, c'est
prendre.
Lucas qui poste. C'est lui-même qui s'autodéfend.
Ah d'accord, ok, bah, j'avais pas repéré, mais bon, là tu forces un tout petit peu, quoi.
Non, moi j'aime beaucoup Lucas perso.
Tonton ou Soura, celui qui veut, sur Ramos, et puis après on va faire le focus que vous aviez commencé vraiment sur Asensio. Est-ce que Asensio c'est la solution ou est-ce que lui aussi va sauter avec Mbappé en neuf?
J'ai déjà parlé, vas-y Soura.
Vas-y, Soura.
Bah, si Asensio il n'était pas blessé, moi je pense qu'il aurait été titulaire, et ce depuis un long moment, parce que sur les trois premiers matchs, c'était lui qui était titulaire en faux numéro 9. Alors il y avait Ramos pour le premier match face à Lorient, bah, parce que Asensio n'était pas encore arrivé. Mais on l'a vu face à Lens, une fois que les trois de devant, Mbappé, Dembélé et Asensio, étaient alignés et qu'on avait vu qu'il y avait pas mal de permutations, de mouvements, et surtout que Asensio arrivait très bien à avoir des connexions et des libertés avec les deux ailiers. Bah, ça correspondait parfaitement à ce que voulait Locho, parce que bon, il y en a qui ont cité Harry Kane, mais bon, Harry Kane, c'est un Anglais, il méprise la Ligue 1 comme pas possible, il déteste notre championnat, il aurait préféré rester à Tottenham que de venir au Paris Saint-Germain, et je pense que ça aurait pas été une si mauvaise idée vu ce que fait Ange à Tottenham. Donc Harry Kane, faut oublier malheureusement, ça aurait été parfait, hein, mais malheureusement, il serait jamais venu au Paris Saint-Germain.
N'hésite pas à réagir au message de Mister. T'arrives à lire ou pas, Soir?
Ouais, je vois, vu notre émission offensive, pas sûr que Kane aurait marqué beaucoup de buts non plus. Bah, ça dépend de l'utilisation que tu fais d'Harry Kane. Tout dépend de son utilisation, il n'est pas obligé de marquer, hein. Il peut aussi faire marquer ses coéquipiers. Et ça aussi, c'est une qualité pour un neuf
Et
qui est
Mbappé a
monstrueuse.
beaucoup marqué aussi, mine de rien.
Et Mbappé a beaucoup marqué, et Mbappé peut faire marquer aussi. Enfin, du moins, quand ce n'est pas le version égocentrique. Mais en tout cas, moi, je pense que Kane, c'était mort dans l'œuf depuis le début. Et ça, c'est un peu de la faute de Campos d'avoir encore et toujours forcé sur un joueur sans aller chercher des solutions derrière. Puis tu te retrouves à aller chercher un attaquant à une seconde de la fin du mercato estival. Donc ça aussi, c'est
C'est
des choses
Nasser,
qu'il
ça. Hein.
faudra régler.
Oui, ça, c'est
Bah, il y a aussi
Nasser.
Campos qui était aussi concentré sur Gonçalo Ramos.
Oui. Mais après, Colo,
Mais
il
non,
n'est pas
pas normal.
nécessaire. C'est Nasser qui décide de le faire. Campos n'en veut pas.
En
Bah,
fait,
ça, c'est un gros problème aussi.
il y a un truc incroyable, c'est que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Lucas Hernandez et Daniel Riolo sont mis en couple. Et du coup, Lucas a passé son clavier à Daniel. Et donc, Mbappé, alors on va pas ouvrir le dossier. On ne va pas ouvrir le dossier Mbappé en neuf, on n'est pas d'accord avec Riolo là-dessus, mais va, parce que là, justement, l'idée, c'est vraiment, on n'arrête pas d'en parler, n'hésite pas, si tu veux avoir notre avis, à checker les autres lives. Mbappé, il se trouve qu'il est un petit peu meilleur dans le jeu depuis un petit peu de temps, et depuis quelques temps, depuis quelques matchs, et les quelques matchs, bah, il est en neuf. Mais vraiment, le focus, c'est les 170 millions, est-ce qu'ils ne sont pas jetés par la fenêtre, quoi, bon, bah, je pense que. Est-ce qu'il y en a un qui veut rajouter quelque chose dessus? On a
Ouais,
parlé d'Asensio, mais.
moi
Dis-nous, parce que.
rapidement, le Mbappé retrouvera peut-être l'aile gauche quand Nuno Mendes sera là, parce qu'il avait une connexion qu'il n'avait pas. Là, on voyait vraiment qu'il était isolé à gauche, et c'est pour ça qu'Enrique change son animation. C'est que t'es obligé de, même s'il n'est pas bon, Mbappé, tu es obligé d'essayer qu'il soit moins mauvais ou meilleur et qu'il trouve. Donc Enrique a mis ça pour Mbappé, clairement, et ça marche un peu mieux qu'avant. Donc pour le moment, je pense qu'on reste là-dessus, à part ce que nous dira la suite, mais ça, on ne sait pas.
Mais après Lucas, on a Zaïre Emery qui, décidément,
C'est glorieux, c'est glorieux.
on devient méga connu, quoi. Bah maintenant, on va parler du dossier Lucho et un point qui est très juste que Tonton voulait mettre en avant. Et la question de la compatibilité de l'effectif avec Luis Enrique. Et je te laisse te lancer, Tonton.
Alors avant de commencer, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, je ne suis pas forcément le plus grand fan de Luis Enrique, mais maintenant qu'il est là, bah faut quand même faire le taf correctement. Moi j'ai un peu l'impression que justement, comme je disais, il y a une grande partie de l'équipe qui est Lucho incompatible. Et en fait, le problème, c'est qu'il y en a un par ligne titulaire. Et du coup, je vais pas dire en mode Luis Enrique est têtu, tout est de ses torts, tu vois, mais je pense qu'il y a quand même certaines choses que tu peux le décharger. Dans le sens où si tu fais le calcul. T'as Donnarumma qui ne correspond pas à ce que veut Luis Enrique, il n'est pas Lucho compatible, c'est un fait. Même s'il progresse ballon au pied, hein, il est beaucoup plus fort que quand il est arrivé, il n'est toujours pas à ce que demande Luis Enrique à ce poste. T'as Skriniar dans la défense centrale qui n'est pas Lucho compatible pour moi, ni Danilo. Donc il y en a toujours un des deux qui est titulaire, vu que depuis le début de la saison, c'est Lucas qui joue à gauche et qui n'est pas vraiment dans l'axe. Tu montes au milieu, bah, Ugarte en 6, bah, je suis désolé, il n'est pas Lucho compatible. Il est bon, hein, il a une bonne utilité, mais c'est pas ce que demande Luis Enrique, qui est passé quand même de Sergio Busquets et Rodri à Ugarte. J'imagine que la nuque, elle a dû être mouillée pour éviter l'hydrocution. Et quand tu passes à l'attaque de devant, bah, Randall, ça correspond pas, et Ramos non plus. Donc moi, je veux bien que Luis Enrique soit têtu, qu'il ne fait pas toujours les bons choix en cours de match, mais moi, j'ai l'impression que c'est son côté un peu têtu et complexe de Pep de dire, bah, moi, mon équipe, elle ne me convient pas, donc je vais montrer aux yeux du monde entier les grosses failles de cette équipe. Alors, c'est très, très suicidaire de sa part de le faire, mais je pense que, pour moi, hein, si tu veux faire le jugement de Luis Enrique et dire s'il a au moins réussi ou échoué au PSG, bah, faut au moins le laisser faire. Parce que bah, si tu lui donnes une équipe qui, au final, était foutue pour un autre coach allemand, jeune et assez hypé, je ne vais pas citer son nom parce que bah, toi et moi, on est très d'accord sur le sujet, bah, je me dis qu'à un moment, il y a un problème. Je dis que bah, c'est de la même manière que quand on a eu Tourelle puis Pochettino, on a donné une défense à 4 à Tourelle et une défense à 3 à Pochettino. Si on continue de faire cette manière-là avec les coachs, tu peux même nous ramener Pep. Ça ne marchera pas. Donc je pense que, pour moi, tu vois. Rome ne s'est pas faite en un jour, le Paris Saint-Germain ne va pas se recycler en un jour non plus. Je pense que pour moi, ben, va falloir faire des vrais choix dans les prochains mercato et vraiment cibler des joueurs qui sont Lucho compatibles avant de pister ben, genre, des opportunités de marché, je vais dire, pour être sympa.
Alors, pour en faire un résumé, en fait, il y a Tonton qui vient de nous faire un 36-15, c'est pas la faute à Lucho. Et je me demande s'il y en a un de vous deux, Basto Soura, même si, alors clairement, vous allez prendre cher dans le chat, celui qui se lance là-dessus et qui a la grinta pour se lancer dessus, parce que tout le monde est d'accord avec Tonton là-dessus. Est-ce qu'il y en a un de vous deux, Soura ou Basto, qui a envie de se lancer dans le 36-15? Si, Lucho, c'est aussi de sa faute. Et bah, vas-y, Basto, t'es le premier
Allez,
à avoir levé la main.
je prends le micro, même si je suis d'accord avec ce que dit Tonton maintenant. Quand tu compares à Guardiola, Guardiola, tu lui ramènes Kolo Muani Ugarte, je pense qu'il démissionne dans la
Tu me fais
minute.
un faux 36-15 là.
De quoi?
Tu me fais un faux 36-15. Parce que
Non,
moi
bah non.
j'ai un
Tu compares.
36-15
Je te
pour
dis
qu'il
juste
ait de la merde.
que Guardiola, lui, il mettrait son veto. Enrique, depuis le début de sa carrière, ne dit jamais non à ses directeurs sportifs, même quand ça ne lui correspond pas. Donc, bah là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on veut nous ramener Moscardo. Est-ce que Moscardo, ça a l'air compatible avec le PSG? Non, c'est encore un joueur qui, a priori, ne fait que beaucoup de passes latérales. Après, on ne l'a pas vu jouer, on ne va pas se mentir. Mais quand on voit qu'il est dans les 1% pire à son poste des passes progressives, tu te dis que ce n'est pas très Lucho compatible. Donc, il a le droit aussi de dire non, même s'il vient d'arriver. Lucho, il peut dire non, ça ne me plaît pas. Ou si ça ne me plaît pas, bah, je le boycotte et je le mettais sur le banc. Regarde, Guardiola, il ne voulait peut-être pas de Calvin Phillips. S'il l'a mis deux matchs, on ne l'a plus jamais vu. Donc, ce n'est pas tout à fait la même mentalité que Guardiola là-dessus. Maintenant, il y a d'autres points. C'est que, joueur compatible ou pas, quand tu vois la passe de Hernandez à Dortmund, qui a failli faire une passe décisive sur Mbappé, sur le sauvetage extraordinaire de Solo, tu vois Enrique qui se retourne et qui fait parce que Hernandez a allongé. Mais tu as le droit d'allonger de temps en temps, il était là l'espace. Donc, il ne faut pas rester non plus arc-bouté dans ce on fait la passe.
Oui,
la
mais Lucas, il est Lucho compatible. C'est un mauvais exemple, Basto.
Il est Lucho compatible, mais pourtant, il l'engueule quand il fait une passe longue. C'est ce que je dis. Donc, il va quand même très loin dans sa matrix de il faut ce que je veux. Et en même temps, il ne dit pas non aux joueurs qui ne lui correspondent pas. Donc, au bout d'un moment, lui aussi est un peu schizophrénique, comme le club.
Sora, toi, t'es plus je te lancerai sur la synthèse, mais est-ce que toi, t'es plutôt d'accord avec tonton ou t'es pas tout à fait d'accord avec tonton?
Je pense que je suis assez d'accord quand même. Parce que...
Ah bah alors j'interviens avant et après je te lance sur la synthèse et c'est toi qui feras la synthèse de tous les arguments et qui etc. On a un coach, il y a une seule chose sur laquelle il est surprenant, c'est sur ses compos. Personne n'est jamais capable de voir une compo qu'il va faire, mais par contre il y a une constante, c'est qu'il n'a pas une seule fois aligné une compo où on a eu un début de match satisfaisant. Systématiquement, nos débuts de match sont à chier. Il n'y a pas de contre-exemple, on n'a toujours pas de match référence. Alors, de temps en temps, il réagit bien, il fait les bons changements au bon moment. Et là-dessus, bravo. Mais à chaque fois, il commence sa copie en commençant par un 6 sur 20. Alors, il finit des fois avec un 12, des fois, il finit avec un 11. Mais il ne peut jamais viser plus haut que le 12 parce qu'à chaque fois, il commence en faisant n'importe quoi. Et pourtant, il y a des fois des choses qui sont simples, qui coûtent sur sens. Tu pourrais aussi envisager que le mec construise des automatismes. Jamais pour lui, automatisme, ça ne veut rien dire. Non, à chaque fois, je vous mets dans une situation différente. Il a fait jouer ses joueurs dans je ne sais même pas combien de situations, quasiment jamais les mêmes les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on construit? Alors peut-être, moi je ne suis pas coach, etc. Il connaît inévitablement mille fois mieux que moi le foot. Et peut-être que l'année prochaine, je serai en train de me dédire par rapport à ce que je suis en train de dire et qu'en fait, il est en train de déconstruire des habitudes pour en reconstruire, pour machin, pour bidule chouette. Mais le coach qui est la référence dans ça, c'est Bielsa. Et Bielsa, il ne lui faut pas 6 mois pour que tout à coup, tu commences à prendre ton pied en regardant l'équipe te jouer. Moi, ce que je le reconnais, c'est que je ne m'ennuie plus par rapport à avant. Avant, je m'ennuyais clairement pendant les matchs. Mais là, j'ai quand même souvent l'impression que je ne m'ennuie pas parce que c'est l'équipe en face qui joue bien. Parce que mine de rien, les matchs qui sont comme ça, il y en a pas mal. Et maintenant, je laisse Sora faire la conclusion et faire la synthèse de ce que vous avez.
Bah, déjà, on est passé d'un prof de sport à un coach. C'est quand même une sacrée différence entre quelques mois. C'est assez intéressant. Et le truc, c'est que Luis Enrique, qui vient de la sélection espagnole, où tu avais Gavi, Pedri, Sergio Busquets, et qu'aujourd'hui, de son milieu de terrain, on aime beaucoup Vitinha, on aime bien Warren Zaïre, on aime bien Ugarte, mais techniquement, c'est quand même beaucoup de classes d'écart par rapport à ce qu'il a eu en Espagne. Et pour le coup, je pense que Luis Enrique va devoir s'adapter. Il a commencé déjà à le faire sur certains matchs et il va le faire en 8e de finale de la Ligue des Champions si jamais il tombe à Manchester City, parce qu'il n'aura pas les armes pour pouvoir batailler sur la bataille de la possession de balle. Donc pour le coup, même si on a quelqu'un d'assez dogmatique dans son approche tactique, eh bien c'est quand même quelqu'un qui a su s'adapter quand il fallait et qui a su trouver les bons arguments pour essayer de ne pas prendre l'eau et de ne pas se faire détruire sur certains matchs, notamment face à Dortmund, où si jamais on avait tenté d'aller marquer le deuxième but comme ce que voulait Mbappé, tu pouvais prendre le risque de prendre un but derrière, même si moi, ouais, je pense qu'on aurait dû le faire.
Oui, parce que justement, la seule occasion de Dortmund dans les 25 dernières minutes qui passe plus dans le milieu de terrain, c'est 2 minutes après que Enrique nous dise d'arrêter de jouer. Hein. S'il réussit son contrôle, eh ben on est à la maison, parce qu'on a arrêté de jouer.
Et en vrai, la seule fois où je l'ai vraiment trouvé pragmatique, c'est la fois où on s'est retrouvé à 10, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il est dogmatique all the way, moi.
En plus, je sais pas si contre le Havre, je sais pas s'il était très.
Mais alors, justement, pour revenir sur, parce que le point de départ, et ce que disait Tonton est juste, hein, indépendamment de ce coach commence moi à m'agacer, Tonton est d'une patience infinie, Basto est un peu entre les deux plutôt de mon côté, Sora un peu entre les deux plutôt du côté de Tonton. Est-ce qu'on peut rester en l'état? Est-ce que, compte tenu du fait que concrètement, pour le coup, il y a des joueurs qui sont pas adaptés, est-ce qu'on peut continuer et finir la saison dans cet état où il nous faut des recrues impérativement cet hiver pour toi, Tonton?
Bah, en soi, il faut des recrues, mais si c'est pour faire des recrues mid entre guillemets, qui ne te font pas passer un cap, qui seront encore des joueurs moyens que tu vas surpayer en salaire et en transfert parce que tu les prends en hiver, que ces mecs ne s'imposent pas et que ça te fait encore de la rotation inutile, je préfère ne pas faire de recrues en hiver, garder l'argent et attendre l'été pour faire des vrais choix, entre guillemets. Mais si tu as des vraies opportunités, que tu peux vraiment signer un joueur qui a une plus-value et qui peut être vraiment utile dès cet hiver, je ne rate pas l'occasion. Mais entre guillemets, je préfère à la limite ne rien recruter et me tomber sur un ogre européen en huitième, comme ça, genre on voit bien les failles du PSG devant les yeux du monde entier. Encore mieux si c'est Manchester City, parce qu'il n'y a rien de mieux que Manchester City pour faire réagir le Qatar. Bah, je me dis que justement, là, tu auras plus de chances de réacheter des bons joueurs au bon poste dès cet été. Alors que si, là, entre guillemets, tu agis sur le coup de la panique, tu dis, oh, on a tiré telle équipe, il faut qu'on soit renforcé, bah, j'ai l'impression qu'on va recruter des joueurs, pas pour les bonnes raisons, mais plus quantitativement que qualitativement. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas recruter cet hiver, mais si j'ai le choix entre ne pas recruter cet hiver pour avoir mieux cet été que de recruter cet hiver du moyen, et encore recruter du moyen, et encore recruter du moyen, bah je préfère passer une fenêtre de mercato pour une fois pour en avoir une plus compétente l'été prochain.
Et donc, tu es prêt à rester avec une équipe qui est, par définition, nous toujours incompatible, comme tu nous l'as montré tout à l'heure.
Alors justement, ça revient un peu au débat que j'avais eu avec Basto mercredi soir quand on parlait de pourquoi pour moi la deuxième place était la meilleure chose qui pouvait arriver au PSG. Le problème, c'est que si tu termines les premiers de ta poule, tu pouvais avoir un tirage favorable et éventuellement faire une bonne compétition derrière. Et en fait, tu aurais masqué les choses. Tu aurais pu dire, oh, ce PSG, il est en transition, ce PSG, il est en changement de projet, mais malgré ça, il fait mieux que l'an dernier. Donc du coup, tu ne serais pas vraiment inquiété et tu n'aurais pas fait les changements qui sont nécessaires. Si tu vas en Ligue Europa, allez, on va aller dans votre sens à toi et Basto que vous avez eu un moment, on aurait été en Ligue Europa et on aurait gagné cette compétition. On aurait rajouté le trophée dans l'armoire. Bah, là, on serait dit, bon, finalement, cette équipe, elle est compétente, on a juste eu pas de chance dans la poule, donc on n'aurait pas résolu les vrais problèmes. Alors que là, le fait qu'on est deuxième, c'est simple, on va tirer une équipe qui risque de nous poser problème. Moi, vraiment, je le dis, il y a moyen qu'on tire Manchester City et que Manchester City nous fasse une leçon en mondiovision. Et si ça arrive, c'est peut-être la meilleure chose qui peut nous arriver, parce que bah, là, les dirigeants, non seulement ils auront les boules, mais comme ce sera les Émirats Arabes Unis qui leur mettront la pilée, et bah, ils auront un conflit d'ego, ils diront, bon, bah, ils nous montrent encore une fois comment il faut taper, donc il faudrait peut-être prendre un autre virage l'été prochain.
Bah ça, je te laisse réagir à ce que dit Tonton et au passage à ce que dit Vincent.
Moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas recruter pour recruter par rapport à ce que dit Tonton. Et je pense de plus en plus qu'il faut peut-être même limite ne pas recruter tout court pour laisser faire un constat. Maintenant que le PSG est en huitième, le PSG sera sûrement champion de France. Il y aura la Coupe de France en objectif. En Ligue des Champions, vu le tirage, si tu passes, ce sera un bonus. Sinon, bah, tu auras perdu en huitième et c'est ton niveau parce que déjà, tu n'aurais peut-être même pas dû passer les poules. Donc, ça ne sert à rien d'acheter des joueurs parce que les objectifs, on va les atteindre avec cet effectif. Donc, autant faire un bilan complet sur une saison et non pas sur 3-4 mois de cet effectif pour ensuite bah, que Lucho dise, lui, il n'est pas compatible, lui, il n'est pas compatible. On l'a vu, il a joué 30-40 matchs et faire un état des lieux et garder ça pour cet été. Maintenant, par rapport à ce que dit Vincent, c'est vrai que le style Enrique, c'est-à-dire pure possession, etc., on l'a vu, c'est vrai, sur tous les deux premiers matchs. Après, il y a eu plus de transitions parce qu'aussi, il y avait Mbappé et Dembélé qui n'étaient pas là les deux premiers matchs. Donc, c'est sûr que ça change l'équipe. Et là, ça va un peu dans ce sens où il dit que c'est les joueurs qui font le style forcément avec Mbappé et Dembélé. Tu joues pas pareil qu'avec Ramos Asensio. Maintenant, un coach comme Bielsa qui prenne un gros, un petit, hein, une équipe de D2, une équipe de D3, il va imposer son style. Donc, ce n'est pas que les joueurs qui font le style,
Emery.
évidemment. Les joueurs influencent un minimum le style ou Emery qui va jouer.
Unai Emery.
Oui.
Excellent exemple, Unai Emery, coach dont on parle pas assez. Enfin, si, bien sûr que le coach, c'est sûr que quand tu prends Galtier, il n'a aucune incidence sur ton équipe, mais le propre d'un coach, et surtout les mecs qui sont bien payés, le coach dont Tonton et Basto parlaient tout à l'heure, Nagelsmann, c'est le cas. Il y a des coachs qui savent faire leur joueur. Alors, toi, je vais te lancer maintenant, Sourad. J'espère que tu as tout entendu, parce qu'il y a un moment, tu as été déconnecté. Et au passage, je réponds à cette question de Brad. Pour moi, la réponse, elle est évidente, mais.
Bah, il n'y a pas débat. Si, franchement, si on prend Casemiro, j'éteins ma télé. Hein. Là, ça ne sert à rien.
Casemiro, il n'est pas un mauvais
Non,
joueur.
Quand
hein.
même pas.
Il n'est
pas
un mauvais
pas,
joueur.
Mais il n'est pas
pas un
compatible
mauvais
avec
joueur,
les. Il n'est pas
compatible
avec
les
etc. En plus, on en avait parlé quand on était en plateau la dernière fois, qu'il y a des choix quand même d'âge aussi. Parce que Casemiro, il est sur la fin. Que Bruno Guimarães, là, il est presque dans son prime. Un joueur qu'il nous faut, 115 millions. On fait des débats, il ne faut pas prendre des joueurs qui sont moyen bis, moyen plus. Là, tu peux avoir un top player à son poste, prendre un joueur qui va te servir sur les prochaines années, qui connaît le championnat de France en plus de ça. Donc, non, que Bruno Guimarães tous les jours.
Et sinon, donc sur le recrutement, pas du tout cet hiver. Même si on a une équipe qui est incompatible avec Luis Enrique, ça sert à rien de recruter cet hiver, sauf opportunité.
Ça dépend. Voilà, s'il y a une belle opportunité qui correspond au style de jeu d'Enrique, pourquoi pas. Mais si c'est pour prendre un Kefren Thuram ou un Youssouf Fofana qui ne va pas forcément rentrer dans les plans de Luis Enrique, certes, ils vont être dans l'abattage physique et dans le volume de jeu, ça va répondre à ce qu'on veut, pas de souci. Mais quand il s'agira de faire ce que veut Lucho comme ce que pouvait faire un Pedri, là je pense que Lucho il va commencer à faire un peu de chimie dans sa tactique et mettre Likanguin à la place d'un Fofana par exemple.
À la place de Fofana ?
Si jamais il venait au mercato hivernal.
D'accord. Bon, bah, écoute, est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter sur le dossier Lucho ou on commence à partir sur l'avant-match ? Ah bah il y a Vincent qui demande pourquoi Emery, bah parce que juste Emery il n'est pas taillé. Emery il a un défaut, il a un défaut, c'est que quand il entraîne un 2, 3, 4e de championnat, bah il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que peut-être la pression médiatique, peut-être parce qu'il n'a pas la bonne image, à chaque fois il se fait tracher sur la manière avec laquelle il parle. Mais dans les faits, bah, c'est le club qui en Europe a eu le plus de succès récemment. Ce qu'il a fait avec Séville était exceptionnel. Ce qu'il est en train de faire avec Villa, c'est exceptionnel. C'est un des meilleurs coachs. Trouve un coach qui est capable de faire le match qu'il fait. Alors, j'ai pas vu le match, hein, mais j'ai vu les stats, le match qu'il fait contre City. Trouve un coach qui est capable de faire un match comme ça à Pep Guardiola. Et puis, on en reparle, quoi.
Bah, donc, 500 matchs. 500 matchs pro entraînés par Guardiola, c'est le match où il a le moins tiré depuis le début de sa carrière, c'est le match où il a le plus concédé.
C'est un coach extraordinaire, tout simplement, et qui a été déprécié au Paris Saint-Germain, alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, mais pour le coup, Paris Saint-Germain, on connaît très bien, on ne s'ennuyait pas, ça jouait bien, on a eu des matchs références en foison, là avec Luis Enrique, on est encore en train d'attendre le premier match référence, avec Emery, des matchs références, il y en a à foison, oui, il y a la remontada qui est une tâche indélébile, mais ce coach a été maltraité au Paris Saint-Germain, et sur les 10 dernières années, clairement, c'est le coach qui nous fait le mieux jouer, donc pourquoi revenir à lui ? Bah, parce que c'est un bon coach, tout simplement. Et donc, on en a fini avec Unai Emery, sauf s'il y a quelqu'un de vous qui voulait rajouter quelque chose sur Unai.
Non, c'est pas le sujet. Ça.
Non, il est dans le voilà. Contexte, tant mieux pour lui.
Et on va partir, sur l'avant-match. Alors, je sais plus qui j'ai pas fait commencer. Je crois que je t'ai fait commencer. Tonton, ouais, Basto, t'attends quoi ? T'attends quoi après le match nul qu'on a vu cette semaine ? T'attends quoi demain soir ? C'est demain soir.
C'est un gros match de Ligue 1, parce que Lille, en fait, c'est les deux équipes que je suis vraiment de cette saison. Donc, Lille, je regarde quasiment tous leurs matchs. C'est vraiment le plus gros test qu'on a en Ligue 1 depuis le début de la saison. Quand on avait joué les Monaco, Marseille, Lyon, etc., c'était des équipes qui étaient soit avec des défauts apparents, soit bêtes blessées. Lille est une équipe qui, là, ne perd plus, même s'ils ont fait un 0-0 assez décevant contre Clermont. Globalement, ils ont des très bons résultats. C'est une équipe qui ne prend pas de but, qui ne prend plus de but parce qu'ils en prenaient beaucoup l'année dernière. Donc, à trouver une solidité dans la charnière. C'est une équipe qui, pour le coup, a eu un coach aussi un peu dogmatique, Fonseca. Mais lui, on lui a donné des joueurs où il les a découverts. Il a mis Chevalier titulaire, qui a un très bon jeu au pied. Il a mis Yoro, la révélation, parce qu'il a un très bon jeu au pied. Cette année, on lui ramène Bentaleb au milieu, qui est un 6 créateur. Donc, il a une équipe qui vraiment est faite pour son jeu, et ça se voit, c'est une équipe qui est très cohérente, qui ne prend plus de but, qui a les principes de jeu dans la relance de l'année dernière, qui s'est qualifié facilement premier de sa poule, même si c'est en Conference League, ils l'ont fait. Donc ça va être un match là, ça va être un vrai test, parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément le niveau Newcastle, Dortmund, Milan, ou qu'on était ric-rac. On va voir contre Lille pour voir s'il y avait eu une concurrence en Ligue 1, elle peut exister peut-être ici. Donc ça va être très intéressant, je pense.
Alors, Basto a répondu à la deuxième question, donc on va se focus sur la deuxième question, on reviendra sur la première après. Comment est-ce que tu sens ce Lille, toi, du coup, Soura ?
En vrai, c'est une équipe déjà qui est rodée, ça fait deux saisons que Fonseca est sur le banc lillois, il y a quand même des certitudes au niveau de l'équipe lilloise, que ce soit au milieu de terrain avec un Rémi Cabella qui a fait une saison tout simplement étincelante la saison dernière. Maintenant, par rapport au LOSC, la seule chose qui pourrait nous être favorable pour nous, c'est un peu leur inefficacité devant le but. Jonathan David, il lui en faut beaucoup pour marquer un but. Et ça aussi, c'est un gros point faible par rapport à sa progression à l'avenir. Et notamment sur le côté des ailiers, parce que tu as quand même perdu certains joueurs qui pouvaient faire quelques différences. Donc, je pense qu'il y a quand même des avantages à en tirer de cette inefficacité. Mais derrière, face à un Leny Yoro, face à un Bafo Diakité, va falloir quand même transformer les occasions que tu auras, parce que sinon, si ça commence à traîner, et que tu laisses pas d'avis d'avoir quelques occasions ou un penalty, on ne sait jamais, bah faudra pas venir pleurer à la fin du match.
Juste parce que Vincent il m'agace et après je te lance Basto. Regarde Di Maria, regarde Di Maria sous Emery, regarde Di Maria dans les autres avec les autres. Et non, il n'a pas eu forcément le meilleur effectif. Enfin, bon. Basto, vas-y.
Bah tu m'as j'ai déjà répondu.
Ah pardon, oui, c'est pour ça que j'avais fait monter ton ton, mais tu avais levé la main pour dire un
Oui,
truc.
après je dirais je ferai un
Vas-y,
complément.
vas-y ton ton, enchaîne.
Alors déjà pour commencer, pour répondre à Rachid, on ne fait pas encore de centre de formation Paris Central, Soura et Majeur est vacciné.
Ouais,
On est plus dans la post-formation pour le moment, mais pourquoi pas ouvrir un centre de formation Paris Central, vous nous donnez des idées.
et puis
Mais
de toute façon, vous inquiétez pas, quand Soura est là, tonton ne se met pas tout nu. Vas-y, je
exactement. Non,
t'ai
justement pour
pris,
commencer.
t'as pris le rôle du host, donc je me venge, je t'en mets une petite hein, au passage. Vas-y, maintenant je te laisse enchaîner.
Bien joué, Grishka, mais je reprends justement.
Je t'en prie.
J'allais justement revenir sur le fait que Lille est actuellement quatrième de Ligue 1 et seulement à 3 points de Monaco avec un match de moins. Donc, selon le résultat de Lille sur le match en retard sur Monaco, ben, il pourrait très bien être troisième et rentrer dans la lutte pour le podium avec justement Monaco et Nice. Donc, je pense que justement, on est sur une confrontation très intéressante, comme le disait Basto. Ça nous donnera un peu une idée de savoir qui sont nos concurrents et si oui, ils vont pouvoir nous tenir la chicane jusqu'au bout. J'avoue que je pense que ça va être un match un peu compliqué dans le sens où c'est une très très bonne défense. Et du coup, surtout quand on sait qu'on a un bon point faible sur corner, on sait qu'ils ont un défenseur notamment très très bon dans les duels aériens qu'on recherche qui s'appelle les Niro. Je ferai attention aussi à la propension que Lille a se procurer des pénaltys dans le sens où Jonathan David en marque beaucoup. Donc ça aussi, c'est un atout dont je me méfierais. Mais je pense que ça peut être un match qu'on peut gagner 2-1 très très serré en tout cas. Mais match
Moi,
tendu à venir.
je trouve, ouais, y a moi, pour moi, ce qui m'interpelle chez Lille, au-delà des individualités, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise du ballon. Et Paris, c'est vraiment pas son point fort, quoi. Donc, moi, ça me rassure pas. Enfin, vous avez pas cette lecture? T'as pas cette lecture, Basso?
Si, si, bah bien sûr, on en a parlé. L'année dernière, ils avaient la maîtrise dans le jeu, c'était très intéressant, mais ils prenaient beaucoup de buts, donc ils n'avaient pas cette maîtrise défensive. Et ils ont réglé ça, c'est devenu limite leur point fort, la défense, mais ils ont toujours les sorties de balles. D'ailleurs, ils ont peut-être le meilleur milieu qu'on va affronter, c'est ça aussi que je voulais ajouter, parce qu'on a parlé de la défenseur de David Extra. Le milieu Benjamin André, Ben Taleb et Angel Gomez est ultra complémentaire. Et c'est peut-être le meilleur milieu qu'on a eu à affronter cette année. Donc, ça va être très compliqué. Et un autre point, c'était pour répondre à Soura qui parlait de Cabella, qui l'année dernière a été élu meilleur joueur de Lille, mais qui cette année a perdu sa place. C'est là aussi que c'est intéressant. Ils ont commencé l'année avec Cabella, qui était leur meilleur joueur l'année dernière, et Haraldsson, qui est la recrue la plus onéreuse de cet été. Finalement, les titulaires, c'est Zegrova et Yazici, et ça marche très bien. Donc, ils ont aussi une profondeur de banc et une cohérence partout, à toutes les lignes.
Azegrova, c'est impressionnant cette saison.
Vas-y, Soura, enchaîne. Tu penses qu'on aura quoi comme compo, toi? Et très rapidement, non, on n'est pas en train de dire que Paris va perdre, excuse-moi, hein. Paris va perdre, c'est juste que ça va vraiment pas être un match simple. Mais
Ah
vas-y.
bah non, on les voit pas perdre, je pense pas, mais pour le coup, en termes de composition, je pense que ce sera peut-être similaire à ce qu'on a eu face à Dortmund, mais peut-être cette fois-ci avec Barcola et Asensio titulaire, pour le coup. Et je pense que vu les dégâts que peut faire Zegrova sur son côté droit, je vois peut-être un Lucas Hernandez déplacé en tant que latéral gauche pour pouvoir contenir ses assauts et essayer de le mettre dans une difficulté pour ne pas qu'il s'exprime et qu'il puisse centrer ou faire des différences et repiquer surtout sur son pied gauche. Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont il faudra faire attention. Et peut-être voir Danilo, cette fois-ci titulaire, aux côtés de Marquinhos plutôt qu'un Milan Skriniar et un milieu de terrain assez similaire avec un Warren Zaïre-Emery titulaire ou peut-être sur le banc.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mukiele. Basto, je te laisse enchaîner.
Moi, je pense qu'il y aura quelques changements, ne serait-ce que physique. Est-ce que Marquinhos peut enchaîner 3 matchs en une semaine? Peut-être pas. Dans ces cas-là, peut-être Mukiele à gauche et Lucas Skriniar ou Lucas Danilo en défense. Je pense qu'Ugarte va revenir à la place de soit Lee, soit Vitinha. Sûrement Lee, hein, qui, mine de rien, a été titulaire 9 fois les 10 derniers matchs. Peut-être qu'il va lui aussi souffler. Et devant, je pense qu'il va vouloir tester son attaque type qu'il n'a pas pu encore tester au gré des suspensions, etc. Donc je pense que ça va être Barcola, Mbappé, Dembélé pour la première fois titularisés ensemble. Et j'espère que ce sera ça d'ailleurs. Pour un match comme contre Lille, on ne peut plus juger qu'un match contre Metz qui suit derrière. Donc je préfère le voir contre Lille, ce trio. On aura le temps de tourner justement mercredi contre Metz pour tous les autres.
Tonton, je te laisse continuer.
Non, rien de plus à ajouter en soi pour moi, Basto a bien résumé les
D'accord.
choses.
D'accord. Bah, je vais vous laisser y aller à la séquence prono. Alors, on a eu pas mal de 2-1. Tonton, tu vois quoi comme prono, toi, du coup?
Bah, j'ai dit 2-1, donc j'ai resté sur 2-1.
Ah bah oui, c'est vrai que tu l'avais donné, toi. Bon, bah, basto, ton prono.
Un partout.
Et toi, Sora?
2-0 pour le PSG.
Alors
C'est
après,
tenace
il
le
y a.
gardien contre Lille, hein, je rappelle au cas où. Donnarumma est encore suspendu.
Ah, c'est vrai.
Et ben ça tombe. Après, il y a la question, mais on l'avait déjà traité en fait, ta question Sora, donc on va plutôt partir sur les autres. Moi, à titre perso, je vois un 2-1 Paris aussi. Je vois un 2-1 Paris. Je vois Paris parce qu'on est trop efficace. Enfin non, justement, on manque d'efficacité, mais on procure des occasions et on s'en procure pas mal. D'ailleurs, il a raison, Samuel, qui est ici. On en reparlera tout à l'heure de cet aspect. On va d'abord ouvrir Donnarumma. Parce que c'est vrai qu'on parlait de recrutement cet hiver. Est-ce que pour vous, la concurrence avec Donnarumma est suffisante ou pas?
Bah, ça dépend.
Vas-y.
Bah, y a pas forcément de concurrence actuellement, en fait. C'est juste que c'est à Tenas de saisir les bons points, hein, au match où il va être mis titulaire. Ça va être important pour lui. Mais je pense que on l'a vu, Donnarumma, le match qu'il a fait face à Dortmund, où il a été quand même assez décisif, bah, ça lui fait quand même conserver sa place de numéro 1 dans la cage parisienne. Et par rapport à Arnaud Tenas, je pense que pour lui, il faudrait peut-être lui laisser du temps, voir comment il va réussir à s'insérer et à s'intégrer au sein de cet effectif-là. Et par rapport à Mike Maignan, enfin, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut avec les gardiens au Paris Saint-Germain et qu'est-ce qu'on veut faire. Si on prend Maignan, bah, en fait, on dit à Donnarumma de dégager et il faut vraiment savoir ce qu'il faut parce qu'on ne peut pas faire une concurrence avec un gardien. Ça ne marche jamais, c'est catastrophique. Il y en a un, s'il y en a un, ils sont toujours mis sous pression. S'il y en a un qui fait une erreur, l'autre, il va saisir sa chance. Mais s'il saisit mal sa chance, et bah, au final, on va voir que c'est bourbier. On l'a vu avec Navas, avec Thibaut Courtois, on l'a vu avec Navas et Donnarumma. Et si en plus de ça, on fait Donnarumma et Tenas, et que Tenas, on voit qu'il n'arrive pas à répondre à la pression, qu'est-ce qu'on dit derrière? Ah bah non, Donnarumma, désolé petit, il faut que tu reviennes titulaire, mais en fait, vu que toi, tu marcheras la confiance, mais que t'es pas en confiance, eh ben on sait que tu es capable de nous faire une boulette au mois de février, ce qu'il ne faut absolument pas faire, parce qu'on rappelle que tu as offert un ballon d'or à Benzema. Donc moi, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on conserve Donnarumma malgré ses défauts? Et où Luis Enrique et les entraîneurs des gardiens vont tout faire pour pouvoir pallier ce gros problème-là et donc essayer de s'adapter. Ou sinon, on décide de prendre un gardien qui correspond parfaitement à ce que veut Monsieur Luis Enrique. On va le chercher. Donnarumma, on lui dit d'aller quelque part ailleurs. Et après, on finit le débat et comme ça, on est tranquille pour les 5-10 prochaines années. Parce qu'à la base, c'est ça un gardien quand même.
Ouais,
Normalement,
mais
Donnarumma, il prend sa retraite
le
chez
truc c'est
Dekost.
quoi? Est-ce qu'on n'est pas traumatisé par alors je sais, j'ai un trou de mémoire, je sais plus quel coach a installé une vraie concurrence entre les gardiens.
C'était avec Kevin Trapper et
Pochettino,
Ola.
Pochettino.
Pochettino,
Et
voilà.
Pochettino, Navas,
Et
Donnarumma.
est-ce qu'on n'est pas traumatisé par ça? Et est-ce que du coup on n'a pas construit une situation où on a un Donnarumma qui pour le coup n'a aucune concurrence, c'est-à-dire qu'on
Non,
n'a
ça
pas
marche
vraiment
pas.
un numéro 2, quoi. Vas-y,
Bah,
passe-toi.
il y a toujours Navas, hein, en soi. Même s'il est...
Oui, mais
Non,
Navas
mais
est blessé, bon,
ça marche
machin.
pas la concurrence entre gardiens. Si tu regardes les clubs, t'as toujours un... Même à City, hein, Ortega, quand il joue, il est bon, mais c'est par rapport à Ederson, tu sais que la concurrence n'existe pas. C'est un peu comme Tenas, c'est un jeune gardien qu'ils ont pris et qui fait ses matchs parce qu'ils le mettent de temps en temps, parce que City a tellement de marches qu'ils peuvent tourner en Ligue des Champions. Mais non, non, pour moi, là, franchement, un deuxième gardien, c'est pas. Faut juste qu'il soit au niveau
Ben, c'est
correct, que ce soit pas un Letellier, par exemple, ou un joueur qui n'a jamais eu de match pro et tout. Mais enfin, quoi que Tenas en a pas eu beaucoup, même si la D2 espagnole reste semi-pro. Mais non, non, pour moi, c'est limite un faux sujet. Pour moi, pas de concurrence.
D'accord.
Maintenant, c'est juste, est-ce que Donna doit rester ton gardien l'année prochaine ou pas? Ce serait seulement ça le sujet. Là, avec le match à Dortmund, il a tué le débat pour cette année déjà.
Après, les gens ils disent Maignan, mais Maignan, déjà il est pas tout jeune, il est souvent blessé. Après, c'est ça
Non,
à
le seul
voir le
problème, c'est
débat.
les blessures, parce que sinon, tu Maignan, tu le prends tous les jours. En plus, formé au club, enfin, tu vois, ça, c'est le.
J'ai juste une question. Juste une question à vous poser aux trois, juste un petit quiz, juste pour voir. Je
J'aurais bien
peux?
aimé participer
Ah,
à
vas-y,
l'émission
pardon,
Basto.
t'as pas fait Donna.
Non.
Désolé,
non,
j'ai pas
concernant
compris.
Donna. Non, concernant Donnarumma, en vrai, moi, je pense que le débat est clos dans le sens où Arnaud Tenas, il a été recruté pour être un numéro 2. Et il le deviendra à terme, justement, quand Navas sera parti, quand Rico sera en fin de contrat, quand Letellier sera parti et que tu installeras un autre gardien formé au centre de formation à sa place comme numéro 3. Moi, pour moi, je pense que Tenas sera un bon gardien numéro 2 qui va progresser sur sa ligne. Parce qu'il faut le rappeler aussi, quand on va chercher Arnaud Tenas, on n'a pas une concurrence folle. Si c'était le gardien fait pour devenir le numéro 1 du PSG, on aurait eu sûrement d'autres clubs de top niveau qui seraient venus essayer de le chercher en même temps que nous, et on n'aurait peut-être pas réussi à l'avoir.
Pour un numéro 2. Hein.
Voilà, non mais c'est ce que je te dis. S'il était à ce niveau-là, on aurait eu beaucoup plus de concurrence. Moi, je pense que Gigio, il va terminer sa saison parce que c'est un fait. Tu ne peux pas le mettre en concurrence avec Tenas parce que mentalement, il ne va pas tenir. Oui, Gigio, c'est un très bon gardien sur sa ligne. Il est très bon dans les pénalties. Il a des réflexes incroyables pour aller au sol vis-à-vis de sa grande taille d'albatros. Et ça, c'est une réalité. En revanche, actuellement, avec le coach qu'on a, Gigio Donnarumma, il est Lucho incompatible. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure pour ceux qui ont suivi le live. Pour les autres, je vous invite à revoir. Mais je pense que justement, pour moi, à terme, c'est. Je pense que tu finis la saison avec Gigio Donnarumma. Et je pense qu'en fin de saison, bah, logiquement, bah, il s'en va. Tu le vends. Navas sera en fin de contrat. Rico sera en fin de contrat. Oui, Navas n'est finalement pas parti, mais là, il est en fin de contrat. Donc, à part si t'as assez bête pour le prolonger, il s'en ira. Donc, moi, je pense qu'il y a deux options. C'est soit tu tentes le risque maignant dans le sens où, oui, il est prêt tout de suite. Oui, il a le niveau, mais il a un taux de blessure très élevé. Donc, ça veut dire que Tenas aura beaucoup de temps de jeu, et tant mieux pour lui. Soit tu tentes un pari avec un autre gardien qui répond à ce que veut Luis Enrique, ballon au pied. Et là, entre guillemets, bah, tu vas tenter la piste Chevalier. Mais du coup, un peu plus risqué, parce que Chevalier, jeune joueur qui doit confirmer au plus haut niveau, et pour le moment, bah, il n'a joué qu'à Lille, il n'a pas encore confirmé dans un top club, et peut-être qu'il n'y arrivera pas. On ne sait pas, je ne peux pas garantir que Lucas Chevalier, malgré tout le potentiel qu'il a, puisse confirmer au plus haut niveau, parce que les joueurs au potentiel, il y en a beaucoup qui sont jeunes, confirmer au plus haut niveau, c'est autre chose. Mais je pense que pour moi, tu dois plus partir sur cette solution de finir la saison avec Donnarumma numéro 1, ne pas le perturber, c'est un très très bon gardien quand même, il ne faut pas lui enlever toutes ses qualités. Et je pense que c'est en faisant de cette manière-là que tu arriveras le plus possible à gonfler sa valeur. Il lui restera 2 ans de contrat à la fin de l'été. Je pense que pour moi, je termine là-dessus en disant que le mieux à faire, c'est que tu termines la saison numéro 1 avec lui et ensuite tu le laisses partir, quoi. Et tu vas chercher un gardien plus compatible.
Et on a le petit quiz de Baston, sachant que je suis très très mauvais au quiz. Mais vas-y, Baston.
C'est juste une question. Combien de buts a encaissé Lille sur les 14 derniers matchs? Une réponse des 3, on verra.
T'as dit qu'il était très bon défensivement, on va dire 5.
4.
4, ouais. 4, 10 clean sheets, jamais plus d'un but pris. C'est plus que solide. Je pensais que c'était un peu moins que ça même. Donc je sais.
Et en plus, Thiago Diallo vient de revenir de ses croisés. Hein. Donc, quand il sera à 100%, là, ça va être assez impressionnant.
Ouais.
Et on avait une remarque là. C'est pas une question, mais c'est une remarque qui va un peu dans le sens de ce que. Alors, je mets ça parce qu'en fait, j'ai réalisé, je me suis mal rasé là. Il en reste une petite partie, donc du coup, je me tiens comme ça. C'est un peu. Bon. Et c'est vrai. Ça va dans le sens où les seules séquences où on est vraiment fort, en fait, c'est en transition et c'est parce que Lucho. Tu fais ce constat là toi aussi tonton?
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait de recruter des joueurs qui sont Lucho incompatibles et qui reviennent plus à Julian Nagelsmann. Là moi je vois l'équipe qu'on a, bah moi je la vois plus jouer pour un 3-4-2-1 avec deux pistons offensifs, Randal Kolo Muani qui joue dans le demi-espace comme buteur excentré. Bah ouais, au final je me dis que cette équipe elle n'est pas forcément taillée pour Luis Enrique, que tu es sur un nouveau cycle et que bah, forcément tu vas devoir régénérer cet effectif petit à petit pour qu'il soit totalement Lucho compatible, si tu veux aller dans ce sens en tout cas.
Alors, je vais me lancer maintenant le petit like. On est ensemble depuis 50 minutes, vous kiffez bien le truc, donc si vous n'avez pas mis votre like, mais je pense que la majorité vous l'avez fait, donc n'hésitez pas à mettre votre petit like. Pareil si vous êtes sur Deezer, Spotify, Apple Music, bah, c'est super cool de nous écouter, c'est super cool de rester avec nous, mais si vous pouvez lâcher votre petit abonnement, c'est ce qui nous permet nous de grandir, nous permet d'avoir notamment des séances en studio comme vous avez pu voir sur le dernier live, et on va essayer de multiplier ça. Et c'est parce qu'on grandit, parce que vous likez, que ça nous permet d'y arriver. Du coup, je te laisse réagir, Sora. Est-ce que pour toi, on joue qu'en transition ou est-ce qu'on commence à avoir développé d'autres circuits de jeu?
Bah, pour le coup, face à Dortmund, quand on a décidé de conserver le ballon, même si Dortmund a décidé de rester derrière et de ne pas sortir dessus, c'était quand même des phases de possession de balle qu'il faudrait encore plus travailler à l'avenir et essayer de voir comment tu peux t'adapter. De toute façon, le championnat, c'est à ça que ça sert. Hein. La Ligue des Champions, c'est pas tous les 2 mois. C'est pas toutes les semaines la Ligue des Champions. Donc, sur les phases de... face à certaines équipes...
Mais elles sont pas proactives, tes phases de possession.
Non, c'est pas proactif, c'est pas tout le temps, mais il faut trouver un bon équilibre. De toute façon, t'as pas le choix, t'as pas les joueurs pour sur certaines phases. Soit tu décides d'aller en transition, d'être assez solide défensivement, et ça, on en est capable avec le PSG, on l'a déjà fait. Et quand tu vas affronter des équipes qui vont décider de jouer bloc bas, comme ce qui s'est passé face à Lorient, tu vas avoir la ballon. Il faut que tu crées des occasions. Mais c'est en ayant le ballon, c'est surtout en ayant le ballon qu'il va falloir faire quelque chose, qu'il va falloir trouver des espaces, des équilibres, éliminer ce que fait Barcola notamment, ce que fait un Ousmane Dembélé, ce que peut faire un Hakimi lorsqu'il se connecte. C'est bien beau d'avoir le ballon. Luis Enrique aime beaucoup faire ça. Mais face au Maroc, on a vu, ça n'a donné à rien du tout. T'as fait 1000 passes, t'as pas mis un but et tu t'es fait sortir en quart de finale, en huitième de finale de la Coupe du Monde. Donc du coup, c'est trouver un bon équilibre entre avoir une phase de possession où tu vas pouvoir créer quelque chose derrière, une action de but, une action offensive ou une action dangereuse. Et lorsque tu n'auras pas le ballon, on l'a vu en plus face à l'Inter Milan quand ils ont affronté l'AC. Quand ils ont affronté l'AC Milan, ils ont laissé le ballon au Rossoneri. Le peu de fois où ils avaient des actions, en 3, 4, 5 passes, ils étaient dans la surface de Milan et ça finissait en but. Thuram sur son côté, quand il débordait, ce que peut faire un Kolo Muani pour aller centrer, pour aller créer des déséquilibres ou aller bousculer toute la défense grâce à sa force physique, c'est vraiment trouver les bons circuits de passe au bon moment, arriver à trouver les automatismes et surtout, offensivement, il faut que tu trouves la bonne recette. Parce que si c'est pour qu'à chaque fois tu aies un mauvais contrôle, que le ballon il glisse, que ça soit la patate chaude, bah là, ça sera compliqué. Et Ramos, bah, on verra.
Est-ce que tu voulais réagir, Basto? Sinon, je te lance sur le sujet suivant.
Ouais, rapidement, juste, de toute façon, on est obligé de jouer un peu en transition quand tu as Dembélé et Mbappé dans ton équipe. Et pour le moment, on a l'impression qu'on n'est pas une équipe de possession parce qu'on a un déchet technique qui est monstrueux. Et donc, ça gâche des actions qui sont pourtant bien initiées. Et si elles étaient réussies techniquement comme City, on dirait qu'on est une équipe de possession. Mais bon, c'est sûr que quand tu as un contrôle qui finit en touche ou une passe en touche, bah oui, tu vois pas.
Je t'invite à réagir là-dessus, Basto.
Oui, et
Mais
bah après.
est-ce que pour toi, c'est lui, en gros, il dit on peut pas critiquer Louis parce qu'on a beaucoup d'occasions par match.
Ah, on a beaucoup
Est-ce que...
d'occasions, mais on en concède aussi énormément. On prend, je suis une maille, on doit concéder au moins 15 tirs par match. On est en danger. Donnarumma, il en a sauvé combien au-delà de ses erreurs ces dernières semaines? Il en a sauvé énormément. Le milieu qui est pris, on est pour un moment. On a beaucoup d'occasions, mais on n'a pas de maîtrise. Parce que je pourrais en revenir à ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas de maîtrise, donc on en a beaucoup, on en concède beaucoup. Après, c'est vrai que c'était un peu le Lille de l'année dernière, qui maintenant est beaucoup plus solide. Donc ça peut donner des points de motif d'espoir, si on le... Vas-y, tonton. Pardon.
Non, moi je pense que ça revient en fait à redistribuer la responsabilité à chacun. Je pense que tu vois, tu peux reprocher à Luis Enrique de faire certaines erreurs, d'être assez têtu sur certaines compos. En revanche, quand tu fais un match où à un moment c'est tes mecs qui vendent sur le terrain, Luis Enrique, c'est pas lui qui est sur la pelouse et qui vendange l'action. Donc pour moi, ça renvoie à redistribuer la responsabilité de chacun. Tu fais des reproches à Luis Enrique là où tu peux les faire et tu fais aux joueurs là où tu dois les faire plutôt que de cibler toujours le même et d'avoir un agenda, quoi.
Sinon, il y a Olivier qui nous demande de parler Ramos. On en a parlé un peu en début de podcast quand on parlait du débat du neuf et effectivement que Ramos avait un petit peu, j'arrive pas à trouver un mot pas vulgaire.
À l'envers.
Voilà, Ramos la prenait à l'envers un petit peu. C'est à la fois les circonstances et les choix de Lucho. Mais n'hésite pas à recheck le début du podcast. Et sinon, bah, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Mais du coup, ce serait peut-être la première fois qu'on fait un live. Ah, ben, il y avait, si, Soura, tu voulais nous parler du pendant à gauche pour le duo Hakimi-Dembélé.
Ah bah pour le coup, Mbappé, il faut qu'il soit un peu plus épaulé sur son côté, parce que c'est pas à Vitinha d'avoir ce rôle-là, et on sent que c'est pas forcément quelque chose où il est vraiment à son aise. Et je pense qu'un Lucas Hernandez, offensivement, il peut apporter tant offensivement que défensivement. Après, c'est à Luis Enrique s'il veut prôner un tel déséquilibre. Et ça, je pense pas qu'il veut le faire. Mais pour moi, il faut commencer à créer une véritable connexion à Kylian Mbappé sur le côté gauche, parce que sinon il sera souvent esseulé. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que quand on voit la différence entre Dembélé et Hakimi, à quel point ils arrivent à trouver des passes et à vraiment être bien, avoir une connexion qui est bien établie et qui peut encore plus se développer et améliorer au fil des semaines, on ne va pas attendre le retour de Nuno Mendes pour que Kylian Mbappé commence déjà à avoir quelqu'un qui l'épaule. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, autant laisser Mbappé tout seul, ou sinon tu te mets en neuf et tu essaies de trouver autre chose. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut que tu aies un latéral gauche qui puisse dédoubler son ailier pour ne pas qu'il se retrouve dans des situations de 2 contre 1. Parce que Barcola, que ce soit Barcola ou Mbappé, les défenses, elles ne vont pas être stupides. Hein.
Ouais,
Un contre un, on voit que ça ne passe pas et après, il faudra mettre un deuxième joueur.
Bah avec Mbappé en neuf, ça lui permet de se rapprocher aussi de Dembélé, on sait que la connexion est très forte, donc de mobiliser des défenseurs sur E2, et donc le fait d'avoir Barcola qui aurait plus de 1 contre 1 que si c'était seulement Mbappé à gauche et Colo et Ramos en pointe. Donc je pense que les 1 contre 1,
d'ailleurs, après, c'est si tu dédoubles, là tu es en supériorité numérique, oui, et tu crées encore plus de danger.
Ah, mais je suis d'accord qu'il faudrait un latéral qui monte plus.
Mais bon, tu as un autre problème, c'est qu'Mbappé n'est pas Dembélé. Mbappé part depuis haut. Et va pas chercher à créer les mêmes confrontations. Donc, si tu veux, c'est même si tu peux mettre Nuno, si tu t'obtiendras jamais la même chose. La connexion à droite, elle est magique parce que tu as Hakimi et Dembélé. Et t'en as qu'un seul des deux. Par exemple, si tu arrives à trouver le penchant à gauche, par exemple, on a vu un Mukiele qui a fait des très bonnes rentrées, qui était très offensif, ça marchait pas aussi bien parce que c'est Dembélé et mine de rien clé. Dembélé est extrêmement agaçant comme joueur parce que qu'est-ce qu'il rate? Mais il est clé pour ce genre de truc. Si tu peux pas, tu vois, en fait, la question c'est pas de latéral presque. C'est est-ce que tu as un Dembélé à gauche, quoi?
Ouais.
Enfin, c'est mon ressenti. Basto, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est mon ressenti. Alors oui, après, il y a Mister T qui pose, et je te laisse répondre après, qui pose. Nix l'hijack, en fait, si tu veux, c'est je l'ai envoyé à Londres, mais t'inquiète pas, il revient lundi, il revient lundi pour le live de Ligue des Champions. Je serai sans doute avec lui, mais ce sera lui qui hostera bien sûr, parce que c'est le big boss. Et tu voulais y aller, Basto, vas-y.
Non, j'étais d'accord avec toi. Par contre, juste une petite remarque, c'était. Le fait qu'on ne soit pas en studio aujourd'hui, c'est juste que nous, en studio, c'est comme Marseille en Ligue des Champions. Tu vois, on a tutoyé le sommet, mais on est tous de retour à la maison rapidement.
Oui, sauf que à la différence de Marseille, c'est que le studio, on va y retourner de temps en temps.
Oui.
Et sinon, y a cette question de Vincent. Pour moi, il nous voit beaucoup trop beau. Bah, vas-y, tonton.
Sans même parler de plus fort, en fait. Moi, regarde, je vais donner un exemple. Est-ce que, tu vois, quand on a fait les tirages de Ligue des Champions, j'avais dit, et tu peux aller vérifier sur le live, que Newcastle serait l'équipe qui nous poserait le plus de problèmes dans cette poule. Est-ce que Newcastle est beaucoup plus fort en termes de football? Pas forcément. Donc je pense que pour moi, c'est pas une histoire de est-ce qu'on va affronter plus fort que nous ou non, c'est est-ce que l'équipe en face, elle a des qualités qui vont correspondre à nos défauts, qui peuvent bien nous embêter. Parce qu'imagine, demain, tu tombes contre une équipe qui est spécialiste du contre et du jeu aérien dans la surface adverse. Ils seront pas plus forts que nous en termes de football. Mais ces mecs, s'ils ont ces qualités-là, ils vont nous faire mal tout le long du match. Je pense que Vincent, il sera d'accord avec moi là-dessus. Donc je pense que c'est pas plus, au final, le niveau de l'adversaire qui va compter, mais c'est quoi ces principes de jeu et en quoi ils peuvent nous poser problème.
Laisse-moi reformuler. Est-ce que pour toi, on fait partie du top 4 européen?
Non, pas encore. On a beaucoup de travail,
clairement. C'est ça. La question, c'est ça, là. Hein. Est-ce qu'on fait partie du top 4 européen?
Je l'ai peut-être mal interprété, tu vois, mais pour moi, non, on n'est pas top 4 européen. Et moi, je l'ai interprété différemment, donc j'ai répondu comment j'ai compris.
Vas-y, Basto.
Par City, Bayern, Real, Inter, Sociedad, Munich, Dortmund, Newcastle, Milan. Non, qui est plus fort que Paris? Non, on a vu qu'on était une des équipes les plus faibles parmi les 16. Donc, à l'heure actuelle, on ne va pas se mentir, on n'est pas dans le top 4, on n'est même pas dans le top 8. On est derrière le top 8, je pense, comme beaucoup d'équipes, qui sont entre 8, 10, 12. C'est notre niveau pour le moment.
Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, même si moi, ça me tilte, parce que je n'arrive toujours pas à comprendre ce que veut ce coach, il y a des raisons d'espérer. Peut-être qu'il est en train de nous... Je n'ai aucun argument pour dire il n'est pas sur la bonne, il n'est pas sur la bonne direction. Des fois, je ne comprends pas sur quelle direction on se retrouve, mais peut-être qu'il est sur la bonne direction, donc il y a des raisons d'espérer. Tu voulais réagir sur moi ou j'ai mal interprété?
En vrai, par rapport à ces questions-là de qui est plus fort que qui, déjà, on est une équipe par rapport au top 8, on a beaucoup d'incertitudes. Certaines équipes sont bien plus rodées que nous. Arsenal, oui, Arsenal, c'est au-dessus. Hein. On va à l'Emirates Stadium et je pense qu'on ne ressort pas vivant de l'enceinte. Et pour le coup, même une équipe comme l'Inter, ça reste au-dessus. Une équipe comme l'Inter, c'est au-dessus. Ça fait 3-4 ans qu'ils sont établis en Ligue des Champions. Il y a une évolution constante. Phase de poule, huitième de finale, finale. Donc, pour le coup, en huitième de finale, déjà, on va affronter un gros, encore une fois. Mais ça, je pense qu'on a l'habitude. Il ne faut pas faire des comparaisons, de dire qui est plus fort que qui. Parce que ça se trouve, on aurait fini premier, on aurait tombé la Sociedad, on aurait dit youpi, on se serait fait sortir. Et on aurait dit c'est de la catastrophe industrielle, il faut tout remettre en cause.
On peut taper la Sociedad, hein.
Ça aurait été l'Inter si on avait
ah,
la Sociedad,
c'est sérieux, Arsenal, hein.
Mais non,
c'est solide, hein.
Bah, là, on parle que sur le terrain.
Elle est là depuis longtemps, mais Arsenal, en gros, c'est un des cadors de la première depuis 2-3 ans qui, l'année dernière, se fait bouffer par City parce qu'ils ont pas, ils leur manque de l'expérience, en fait. Ce qui leur manque à Arsenal, c'est de l'expérience.
C'est des gainers.
Tu vois, en demi-finale, tu peux peut-être les taper parce que tu as de l'expérience en plus. Mais footballistiquement, on voit les jouer, ça joue très très bien. Il faut vraiment un Aston Villa pour les éteindre. Vas-y.
Arteta, les trois premières années à Arsenal, ça a été compliqué. Tu vois, tu n'aurais peut-être pas vu la direction. Ça se trouve, Enrique, ça va être comme ça pendant 2-3 ans.
Ah, c'est possible, mais je ne suis pas sûr que j'aurai la patience. Mais c'est possible, je ne pense pas que j'aurai la patience perso. Bon, en tout cas, messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir. Soura, Tonton, Basto, encore une fois, vous avez masterisé le truc. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Je relâche la petite demande pour le like, hein, c'est ce qui nous permet d'exister, d'avoir de la visibilité et tout le dawa. Si vous êtes avec nous sur Spotify, Deezer, bah, c'est un gros kiff. Et sur ce, n'oubliez surtout pas, ici c'est Paris. Ciao tout le monde.
Ciao.